بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاء الإسلام. On va essayer de rapprocher un petit peu. On ne perturbe pas les gens qui complètent leur salat. On remercie Allah Azza wa Jal, on est reconnaissant envers notre Seigneur qui nous donne la possibilité, malgré nos erreurs, malgré nos péchés, malgré nos manquements, malgré l'éloignement, notre éloignement d'Allah Azza wa Jal, notre Seigneur nous donne le tawfiq, la possibilité de s'asseoir un instant, quelques minutes, pour parler de la parole d'Allah, de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui constitue les meilleurs majlis, les meilleures assemblées du dunya. Il n'y a pas une meilleure assemblée que celle où des croyants se réunissent avec ikhlas, avec sincérité, avec pour but unique de parler d'Allah Rabbul Izzah, de connaître le dîn d'Allah Azza wa Jal, de connaître la sunnah de la prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec pour objectif de mieux comprendre la religion, de mieux intégrer les principes de notre dîn, afin de mieux mettre en pratique la religion avec sincérité et ferveur et istiqama, constance. Donc avant le mois béni de Ramadan, on avait plus ou moins complété ce fameux hadith qui est un des hadiths les plus importants de notre dîn, le hadith Jibril, lorsque le prophète alayhi salat wa salam reçoit la visite de l'ange Jibril alayhi salam, qui va faire un rappel magnifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour les sahaba ridwanullahi alayhi majma'in qui sont autour de lui, un rappel concernant les assas, les bases du dîn, les bases de la foi, les piliers de l'islam, les principes que chaque croyant doit intégrer et doit en permanence se souvenir, quel que soit notre degré de pratique de la religion, quelle que soit notre ancienneté dans la religion, quel que soit notre niveau de science religieuse également. Parce que de cette assemblée, il y avait les plus grands savants de la Ummah. Il y avait les khulafa rachidin, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, Abdullah ibn Mas'ud, et ainsi de suite. Subhanallah, les plus grands sahaba étaient réunis autour du prophète alayhi salatu wa salam. Et l'ange Jibril ne vient pas apporter une nouvelle extraordinaire, une description du paradis que personne ne savait, une mise en garde spécifique contre un péché qui peut mener vers l'enfer. Non, il n'a pas amené quelque chose que les sahaba ne connaissaient pas. Ce que l'ange Jibril a expliqué au prophète alayhi salatu wa salam et sahaba, ce n'était là qu'un rappel. Il n'y avait rien de nouveau. C'est-à-dire, il y a déjà eu 13 années de prophétie, Makkatul Mukarrama, où le prophète alayhi salatu wasallam a insisté sur Iman. Et là, c'est un hadith qui parle encore de Iman. Et les savants disent, voyez, quel que soit le niveau de religion, notre degré de pratique, notre connaissance religieuse, et ainsi de suite, quel que soit notre titre également, je suis Hafiz al-Qur'an, je suis Alim, Fundi, je suis Qari, ainsi de suite, quel que soit, bref, notre degré de islam, on a toujours besoin d'un rappel concernant les piliers de la foi, car ça c'est quelque chose d'indispensable. Et personne ne peut se dire que ça c'est pas pour moi, ça j'ai pas besoin, ce sont des choses que j'ai déjà appris ou qu'on entend à chaque fois, la wallah. C'est peut-être parfois ce genre de rappel, une parole qu'on entend qui peut provoquer, bi'ivnillah, un déclic et qui nous permet de comprendre le but de notre vie. Parce qu'il y a des gens qui vont cumuler quantité de bonnes actions sans jamais réaliser pourquoi ils accomplissent autant de bonnes actions. Il y a plein de gens qui vont rester éloignés du haram, qui vont mettre en garde leurs enfants contre telle chose, telle chose, telle chose. C'est bien, c'est excellent, mais sans réellement comprendre pourquoi est-ce que je ne fais pas ça. Pourquoi est-ce que ma vie est différente de la vie du kafir? Pourquoi est-ce que moi je ne jouis pas des biens de ce monde et des plaisirs de ce monde, comme celui qui n'a pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans son cœur. Il a intégré le fait qu'il ne faut pas boire de l'alcool. Il a intégré le fait qu'il ne faut pas aller en boîte de nuit, qu'il ne faut pas écouter de la musique, qu'il ne faut pas regarder ce qui est haram. Il l'a intégré, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Ce qui est louable, mashallah, surtout notre époque. Mais il n'a pas réellement fait la relation entre l'éloignement du haram et la récompense suprême auprès d'Allah Rabbul Izzah. Il n'a pas fait la relation directe entre sa patience ou sabre dans les moments de difficulté, quelqu'un qui subit des épreuves, des difficultés de la vie, et qui est sabir, qui est patient, il a ses récompenses pour la patience, pour le fait qu'il s'en remette à Allah, mais peut-être qu'il lui manquait une pièce au puzzle pour qu'il ait le réel ihtisab, l'espoir de rétribution auprès d'Allah. J'accomplis ces bonnes actions parce que j'attends une récompense de la part de mon Seigneur. Je m'éloigne de ces péchés parce que devant Allah Azza wa Jalla, je ne pourrai répondre de ces péchés dans les différentes étapes de l'au-delà. Et c'est là qu'on met le doigt sur le thème qui nous intéresse. Durant les différentes étapes de l'au-delà, quelle réponse je vais donner par rapport à ce péché qui se trouve greffé dans mon livret d'action. Il lui manque le puzzle pour réaliser que en étant patient dans les moments de difficulté, face à la maladie, face à la paix, à des proches, face à des ibtila, que chacun connaît ces ibtila, il n'a pas réalisé que c'est par cela certainement qu'Allah est en train d'élever mon grade, d'effacer mes péchés, et Allah Azza wa Jal est en train de m'accorder une place dans le Jannah. Il est patient, il supporte cette maladie, il supporte cette difficulté, mais il n'a pas fait la relation directe avec son au-delà. S'il l'avait fait, les trois catégories de personnes, l'accomplissement des bonnes œuvres, l'éloignement des péchés ou la patience dans les moments de difficulté l'aurait procuré un moment de jouissance spirituelle que personne ne pourrait imaginer. Que quelqu'un d'extérieur voit la personne dans les souffrances, mais qu'intérieurement il ressent une tranquillité du cœur parce qu'il sait qu'au-delà de ses souffrances, il y a la rétribution finale. Quelqu'un qui l'observe sans iman, sans foi, se dirait que cette personne-là est complètement givrée. Il est malade, il est fou. Il a des difficultés et il aime les difficultés. C'était le cas des sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. C'est ce qu'on avait cité, je ne sais plus dans quel chapitre, as-sabr ou autre chapitre. Quatrième catégorie de patience dans les épreuves, celui qui, lorsqu'il est éprouvé par Allah, il lève les mains et remercie Allah de l'épreuve. Ajib. Celui qui, lorsqu'il est éprouvé, il lève les mains et remercie Allah, il fait shukr. Parce qu'Allah l'a envoyé ibtila, une épreuve, parce qu'il sait qu'avec ça, Allah est en train d'élever mon grade. Si Allah m'a éprouvé, c'est qu'Allah aime, c'est qu'Allah m'aime. C'est qu'Allah m'aime. Hadith, en ce sens, dit « إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا أَصَابَ مِنْهُ » Si je ne me trompe pas sur les termes, mais le sens y est. Lorsqu'Allah aime une personne, Allah va l'éprouver. « أَحَسِبَ النَّاسُ وَنْ يُتْرَكُوا وَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ فِتْنَا » Les épreuves, ça fait partie de la sunnah d'Allah Azza wa Jal. Donc cette personne, quand est-ce qu'on atteint ce degré suprême qui fait de vous un croyant intouchable? Shaitan n'a plus d'emprise sur vous. Vous avez atteint le plus haut degré de iman, de ihsan. C'est lorsque la personne a réellement compris la relation de ce dunya et l'au-delà. Lorsque j'ai compris que quand je fais une bonne action, c'est pour qu'Allah soit satisfait de moi et pour qu'il me rétribue là-haut. Avec conviction qu'il y aura la récompense pour ça. Lorsque je m'éloigne d'un haram, je sais exactement pourquoi je m'en éloigne. C'est pas parce que ça fait pas partie de ma culture, parce que c'est sale, ou parce que c'est vilain, ou parce que qu'est-ce que les gens vont dire de moi là, Allah? C'est parce que je ne peux pas me permettre, Allah Akbar, qu'Allah nous pardonne nos manquements. Je ne peux pas me permettre d'être une seconde dans une situation où Allah me regarde en étant en colère avec moi, ou en étant, là le terme est de moi. Il n'y a pas de terme arabe qui dit qu'Allah est déçu, mais on a compris le sens qu'Allah est déçu de ma réaction. Qu'Allah Azza wa Jal voit qu'il a comblé tel serviteur de ses bienfaits et regarde comment est-ce qu'il utilise les bienfaits que je lui ai donnés. C'est pour ça que la personne, il comprend pourquoi je dois absolument m'éloigner du haram, tout en sachant que quand je m'éloigne du haram, Allah est satisfait de moi et quelle récompense j'aurai le jour de Qiyamah pour faire partie des gens qui se sont contrôlés, qui ont contrôlé le nafs, le hawa, le shahawat pour Allah Azza wa Jal. Et ainsi de suite, la personne qui a été sabir, qui a été patient, il saura exactement qu'est-ce qu'il va obtenir de la part d'Allah. Et les savants disent donc, pour revenir au thème du jour, la meilleure façon de faire ce lien entre le monde du dunya de lequel nous vivons et l'au-delà, c'est de connaître l'au-delà. Parce que ce dunya, tout le monde connaît le dunya. Tout le monde connaît le dunya parce qu'on y vit. On est né dans le dunya, on vit dans le dunya et on meurt dans le dunya. Donc ça n'a plus de secret pour nous. On connaît comment le dunya fonctionne, comment ça tourne, quelles sont les règles. On sait. On sait qu'est-ce qui nous apporte du bien, qu'est-ce qui nous fait mal. Quelles sont les erreurs qu'on peut se permettre de faire, quelles sont les erreurs qui sont impardonnables dans la société. Il y a le dunya, on maîtrise. Le akhira, qui c'est qui maîtrise ici? Qui c'est qui a été au mi'raj? Je veux le doigt. Qui a été au voyage nocturne? S'il est là, il faut me dire, on essaie de trouver une fatwa pour vous ou contre vous plutôt. Si quelqu'un a été au voyage nocturne parmi nous, qu'il le dise, qui a vu l'au-delà, personne ne connaît. Yani, notre seule compréhension de l'au-delà, c'est par le biais des ayats du Coran et des hadiths nabawi, des paroles du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et comment pouvons-nous espérer yani, avoir une place correcte dans le akhira? Comment pouvons-nous espérer pouvoir accomplir de bonnes actions avec espoir de rétribution en l'au-delà. Comment pouvons-nous espérer rester éloigné du haram parce qu'on pense à l'au-delà si on n'a aucune idée de l'au-delà? C'est pour ça que les savants disent, quand un croyant étudie les mawaqif min al-akhirah, les étapes de l'au-delà, subhanallah, il n'y a rien de mieux pour augmenter son iman. Il n'y a rien de mieux pour le persuader qu'il doit rester ferme. Il n'y a rien de mieux pour le persuader que même quand on est le 2 Dhul-Qa'da ou le 3 Dhul-Qa'da ou le 4 Dhul-Qa'da, c'est-à-dire un mois révolu plus du mois de Ramadan, je dois continuer à faire mes salat, quelle salat? Ah oui, bravo. Si quelqu'un dit mes 5 salat, je dis oui, mais c'est même pas l'ordre du jour. Que même quand le Ramadan est terminé, je dois, Inch'Allah, continuer à faire mon qiyam al-layl mutahajjud. Je dois continuer à jeûner le lundi et le jeudi. Aujourd'hui, c'était lundi. J'espère que plus de la moitié du majlis a jeûné aujourd'hui. Ça, c'est tawfiq min Allah. Ça, c'est dalil ala al-qaboul. C'est preuve qu'Allah a accepté quelqu'un. Après le mois béni, qu'il continue à faire de bonnes actions. Et vous savez, pour arriver à ce degré, qui était le degré de chaque sahaba, il faut connaître avec perfection toutes les étapes de l'au-delà. Et quand on lit, on continue à lire, à apprendre, à découvrir quelle sera ma destinée là-haut, et qu'est-ce qui va me sauver, et qu'est-ce qui risque de causer ma perte, assurément, on ne perçoit plus le plaisir de la même façon. On ne perçoit plus les bonnes actions de la même façon. Autant, quand on disait que ouais, il faut venir Fajr tôt le matin, ainsi de suite, des fois on se dit, on voit ça comme un fardeau. Oula, c'est fatigant, là je sors du travail à 22h, il faut revenir le matin, la salat elle est 5h30, ainsi de suite. Mais quand tu as réalisé qu'est-ce que cette salat peut t'apporter, le jour de Qiyama, tu attends le lendemain, tu attends cette salat comme une bouée de sauvetage. Le croyant, il attend la prochaine salat comme étant peut-être l'action qui va le sauver, qui va le faire accepter par Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, la conception des ibadas devient totalement différente parce que j'ai compris qu'est-ce qui va se passer là-haut et comment cette action va m'aider. Je vous cite un exemple, un seul exemple. Lorsque le croyant prend conscience du hadith de lequel le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati min amalihi as-salah » La première chose à propos de laquelle chaque croyant, chaque croyante sera interrogé le jour de Qiyama, ce sera ses 5 prières quotidiennes. Allah Azza wa Jalla ordonnera aux anges d'examiner les salats. Est-ce qu'elles sont complètes ou elles sont naqisa, ou elles sont manquantes? Il manque des salats. Il dit que si cette étape est remplie correctement, il n'y a pas un salat qui manque en 55 ans de vie de croyant baligh. S'il n'y a aucune salat qui manque, le voisin me dit que toutes les étapes qui vont venir après vont s'enchaîner avec grande facilité. Allahumma ja'alna minhum. Tandis que si dès la première étape, il n'y a rien, on ne discute de rien avant la salat. On ne discute de rien avant la salat. C'est la première chose qui sera examinée dans notre hisab. D'ici, cette étape se passe mal, qu'on se rend compte que la personne a manqué beaucoup de salat dans sa vie, alors toutes les étapes qui vont venir après, ce seront des étapes difficiles, qui vont être de plus en plus compliquées. Maintenant, quand j'ai conviction sur ce hadith, sur ce texte prophétique, je perçois ma salat al-isha d'une autre façon. Je perçois ma salat al-fajr d'une autre façon. Je perçois ma salat al-dhahr que je dois faire parfois dans ma pause déjeuner quand je suis au lycée. Trouver un petit endroit, mettre un tapis de prière dans le gazon, dans un endroit où on ne me voit pas, on ne me voit pas et faire ma salat. Je perçois ça comme une consécration de la part de mon Seigneur. Comme si qu'Allah veut me sauver en me donnant tawfiq, la possibilité de faire mes 5 salats. C'est comme si qu'Allah veut me protéger de l'enfer, du jahannam, en me donnant la possibilité de ne pas rater jamais une salat, quelles que soient les circonstances. Autant une chose peut paraître compliquée, quand on a réalisé l'au-delà, c'est comme si que nos yeux s'ouvrent réellement. On comprend tout. On comprend absolument tout. Et si on avait un discours un peu réfractaire avant, on se disait que mais l'islam, c'est une religion trop compliquée, il faut venir 5 fois à la mosquée, c'est comme ci, c'est comme ça, il ne faut pas boire, on n'a pas le droit de sortir avec les filles, on n'a pas le droit d'écouter la musique, tout est interdit, ouais, il faut être un musulman un peu plus moderne. Si on a ces discours de shaitan, de waswasa de shaitan, et qu'on découvre par la suite, on réalise ce qu'est vraiment al-yawm al-akhir, l'au-delà, notre conception du dîn change complètement, totalement. Parce qu'on se rend compte que ce qu'il y a là-haut, chef frère, c'est terrible. J'écoutais avant, en venant à la salat, Cheikh Mu'aqili, CD, et il lisait la sourate al-Hajj. Ya yuhannas uttaqu rabbakum inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. La fin du monde était décrite comme étant quelque chose de azim. Je ne sais pas comment ils ont traduit azim, d'extraordinaire, d'incroyable, de terrible, comme étant quelque chose de monumental. C'est quelque chose que l'être humain ne peut pas concevoir. Et quand on apprend donc les étapes de l'au-delà, ça change notre perception du dunya. Et ça change notre perception également de la pratique de la religion. Donc avant le mois béni de Ramadan, on avait expliqué c'est quoi Al-Iman Bil-Yawm Al-Akhir. On a vu quelques points qui sont obligatoires, qui sont importants de savoir qu'on est mu'min. Et ensuite, on avait vu que dans cette situation terrible de l'au-delà, on avait vu le soleil, on avait vu la tente et ainsi de suite. On avait vu qu'il y aura des gens qui seront honorés par Allah Azza wa Jal. Et on avait brièvement cité les qualités qu'avaient développées ces gens. Le roi juste, celui qui a eu le mulk, qui a eu l'autorité de ce dunya et qui a été juste et équitable. On a vu également ce jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. On a vu cette personne dont le cœur est profondément attaché à la masjid et à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On a vu quatrièmement les gens qui ont muhabba pour Allah avec ikhlas et non pas par intérêt. On avait vu également, cinquième catégorie, la personne qui reçoit des avances. Et cet exemple a été cité parce que c'est le point faible de chaque homme. C'est le point faible de chaque être humain. Ce jeune homme qui reçoit les avances d'une belle et jeune fille et qui a la possibilité de commettre l'adultère alors qu'il en a envie, mais qui se rétracte et qui dit « Inni akhafullah, j'ai la crainte d'Allah, je ne peux pas me permettre d'accomplir le haram parce qu'Allah me voit ». Sixième catégorie de personnes qu'on avait vues, la personne qui donne le chemin d'Allah avec ikhlas, avec sincérité, que lorsque sa main droite donne, c'est une métaphore, la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné, c'est-à-dire donner dans le chemin d'Allah, venir en aide à son prochain, à son frère, à sa sœur en islam, par amour et par crainte d'Allah, et non pas pour que les gens soient reconnaissants ou pour que les gens nous considèrent comme étant généreux. Bref, celui qui a atteint le summum de l'ikhlas, le summum de l'mujahada, dans les efforts qu'il va faire par ses biens pour Allah Azza wa Jal. Et enfin, la dernière catégorie, ça il me semble qu'on n'avait pas développé, hein, on le voit très rapidement, c'est Rajulun dhakara Allah khaliyan fafadat 'aynahu, cette personne qui pense à Allah Azza wa Jal seul. Personne qui par exemple se lève de la nuit pour faire le qiyam al-layl, il fait les invocations, il fait les doigts, et dans ses doigts, il pense à Allah, son Seigneur, et il y a des larmes qui coulent de ses yeux. Ça aussi, c'est le summum du ikhlas, c'est le summum du mujahada par son corps, les efforts qu'on fait en se levant. Ce n'est pas les efforts qu'on fait avec l'argent, comme l'homme qui donne le chemin d'Allah. Ça, c'est les efforts avec l'argent. Pour cela, il y a une récompense énorme s'il est greffé, s'il est greffé avec ikhlas. Là, il y a l'effort qu'on fait par le badan, par le corps, les efforts qu'on va faire avec ikhlas. Celui qui arrive à cette situation, c'est quelqu'un qui aura, incha'Allah, cette place sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, le jour de Qiyam. Et en commentaire, les muhaddithin, ils expliquent pourquoi est-ce que cet homme, lorsqu'il fait le dhikr d'Allah, Azza wa Jal, lorsqu'il pense à son Seigneur seul dans la nuit, lorsque personne ne le voit, pourquoi est-ce que cette personne pleure? Cette personne pleure par crainte et par amour d'Allah, Azza wa Jal. C'est-à-dire que cette personne va concrétiser l'essence du taqwa, de la crainte d'Allah. Crainte que si jamais Allah est mécontent de moi pour une action que j'accomplis. Reconnaissance, il pleure par reconnaissance aussi, que comment je suis sale, je suis impur, je suis pécheur. Malgré ça, Allah m'accepte pour être sur un tapis de prière le soir, pour lever les mains avec ces personnes qui eux aussi lèvent les mains en demandant droit à Allah. Au moment où Allah Rabbul Izza descend au ciel, l'intermédiaire de ce dunya, et accepte les invocations du croyant. Comment j'ai eu cette chance, moi? Qui suis-je pour être là? Il pleure, il remercie Allah Azza wa Jal. Il pleure également par muhabba, par amour, l'envie de rencontrer Allah. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme, ça. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va à l'encontre de toutes les valeurs que notre société peut véhiculer, et qu'on a intégrées, et qu'on a digérées, et qu'on a mises en pratique. C'est-à-dire que dans cette société, on nous apprend qu'il faut être en bonne santé, vivre le plus longtemps possible et jouir au mieux de notre vie. Ça, c'est le leitmotiv de notre société. Dans le dîn, Quelqu'un pleure, pas parce qu'il a perdu sa femme, ses enfants ou pas, pas parce qu'il a perdu de l'argent. Non, cet homme qui pleure et qu'on envie donc sa place, c'est celui qui pense à Allah et il est pressé quand est-ce qu'il rencontre son Seigneur. Il pleure parce qu'il attend avec impatience le moment où il va rencontrer Allah Azza wa Jal. Ce qui veut dire que le dunya, la vie de ce monde, les biens, les plaisirs de ce monde n'ont aucune importance pour lui. Il ne s'attache à rien du tout. À rien. Il n'y a rien qui ne l'attire de ce dunya, si ce n'est les bonnes actions qui le permettent de se rapprocher d'Allah. Et comme il n'a fait que ça durant sa vie, que de bonnes œuvres pour se rapprocher d'Allah, il est resté éloigné de tout ce qui est haram. Ce qui veut dire que cette personne-là est vraiment prête à rencontrer Allah Azza wa Jal. Que si à n'importe quel moment l'ange de la mort vient reprendre son âme, c'est le moment de délivrance pour lui. C'est le moment de bonheur. Nous, quand on nous parle de la mort, tout le monde a peur. On a peur de laisser madame derrière, les enfants, le bâtiment en construction, la voiture est là, il y a des dettes, il y a ça, comment on va faire? Parce que le cœur est attaché avec le dunya. Les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, pour eux, quand on parlait de le retour auprès d'Allah, c'était Eid. C'était le moment de Eid. Vous savez, l'histoire du sahaba, je ne sais plus si c'était à Badr ou à Uhud ou une autre campagne, si quelqu'un connaît l'histoire, qui me le rappelle, qui nous corrige. On avait vu le sahaba, le prophète, le sahaba en train de manger des dattes, alors que la bataille avait commencé. Il prenait un peu de force. Le prophète m'a dit, en ce sens, fait comprendre que là-bas, il y a les gens qui combattent, qui luttent pour Allah et qui vont obtenir le Jannah. Il a regardé les dattes qu'il est en train de manger. Il a dit que ce sont des plaisirs de ce monde qui sont en train de me retenir. Il a jeté, couru dans le champ de bataille, donné sa vie pour Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui analyse ça, qui n'a pas la foi, dit mais c'est un malade, il est fou. Il aurait pu faire autre chose, il aurait pu profiter un peu de sa vie. Mais non, yani dunya pour eux, ça n'avait aucune importance. C'est donner leur vie pour Allah Rabbul Izzah. Ça c'était le manzila de sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Donc à notre niveau, nous devons essayer de nous isoler le soir un petit peu, faire deux raka'a de prière et de penser à Allah, penser à nos péchés et pleurer pour nos péchés. Pleurer pour ce moment où on va rencontrer Allah et prouver un peu de crainte que comment est-ce que j'ai pu me laisser aller depuis que le Eid, depuis que le Ramadan est terminé, combien de péchés j'ai recommencé à faire. J'avais arrêté la musique pendant un mois et j'ai recommencé peu à peu. J'avais commencé à contrôler mon regard pendant un mois, j'ai réussi. Et là, je suis retombé dans mes péchés. Et se dire que, comment est-ce qu'Allah me perçoit à ce moment-là? Que je suis ingrat? Il m'a donné la possibilité de faire de bonnes choses. Maintenant, j'ai repris mes mauvaises habitudes. Qu'est-ce qu'il y a dans mon fond, au plus profond de mon cœur? Est-ce qu'il y a l'amour d'Allah ou il n'y a pas? Si je ne suis pas capable de rester dans le droit chemin, c'est que peut-être dans mon cœur, il n'y a pas vraiment d'amour et de crainte d'Allah. Et en essayant de faire son propre jugement, essayer de faire le bilan de ce qu'on est en train de vivre, notre état spirituel. Et si à ce moment-là, il y a des larmes qui coulent, mashallah, c'est bouchra, c'est une bonne nouvelle. Ça peut être des larmes qui coulent par crainte d'Allah par rapport à nos péchés. Ça peut être des larmes qui coulent par espoir et par contentement parce qu'on attend ce moment où un jour Allah va nous accueillir. Ça, c'est donc une personne qui aura une place sous l'ombre du trône d'Allah, Azza wa Jal, jour de Qiyam. Et en commentaire, les muhaddithin, rahimahumullah, expliquent que quand un croyant étudie ce genre de hadith, ça ne doit pas rester uniquement comme un texte descriptif et narratif. C'est pas un texte narratif où on va expliquer, il y aura des gens qui seront comme ça, d'autres comme ça, d'autres comme ça. C'est pas une étude de texte comme on fait au lycée. Non, 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 non. Ça, c'est la description de ton futur. La description de ce que tu vas vivre ou contempler de loin. Soit vivre si tu fais partie de ces gens-là, ou contempler de loin avec remords que tu ne fais pas partie d'eux, mais tu vois la promesse du prophète alayhi salatu wassalam qui est en train de se dérouler, en train de se concrétiser, subhanallah, devant toi. Il y a des fois où, il y a des petits signes qui nous permettent de réaliser que tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit est haq. Mais on n'a pas besoin de ces petits signes. Il y a une photo qu'on avait mise sur un réseau, on a oublié de traduire d'ailleurs, une photo, une carte de l'Arabie Saoudite, où on montre Mecca et Hajar. Et l'autre, il y a une distance, et puis il y a une autre distance, on montre Bassora, qui est en Irak, et l'autre ville, je ne sais plus. D'accord? Deux distances, et on mesure, on voit que ça fait le même nombre de kilomètres, exact. Il a dit que le prophète Mohammed dit vrai. Lorsqu'il a décrit le Jannah, il dit entre les deux ports du Jannah, il y a une distance aussi grande que la distance qu'il y a entre telle ville et telle ville, ou alors entre telle ville et telle ville. On est à une époque où on n'est pas capable de compter les kilomètres. Il n'y a pas de géomètre, il n'y a pas de, de trucs satellites. Ou... Non, on voyage comment? Il n'y a même pas un haddad, comment on appelle ça? Il n'y a même pas un compteur sur la voiture pour dire que je me suis à zéro et quand j'arrive à Saint-Louis, Saint-Pierre, je vois que je fais 75. Il n'y a pas tout ça. Est-ce que votre chameau, il compte les pas? Est-ce que votre cheval compte les pas? Non. Yani, personne ne peut donner une distance exacte. Le prophète, lorsqu'il donne ces deux exemples, il dit la distance entre deux portes du paradis, c'est comme la distance qu'il y a entre Makkah et telle ville, ou entre telle ville. C'est-à-dire deux endroits qui étaient opposés. Il dit que quand, avec les données satellites, quand on mesure les deux villes, les distances entre les deux points, c'est la même distance, au kilomètre près. Ça, ça fait partie des petits signes qui doivent réaliser que ce que le prophète a dit, « Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa » Il ne dit pas des choses, il n'invente pas. Ce qu'il dit, ça vient d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est parfois des petits signes qui nous font réaliser, qui nous font réaliser que, subhanallah, tout ce que le prophète a dit, c'est vrai. Maintenant, si on s'extasie, sans prendre de l'extasie, il n'y a pas nécessité. Si on s'extasie, on s'émerveille, je veux dire, change de mot. Si on s'émerveille en voyant ce genre de petits signes qu'on a expliqué avec la carte géographique, ben, et qu'on a réalisé que ce que le prophète a dit, c'est vrai, c'est haq, je dois avoir la même réaction quand j'étudie le cas de ces sept catégories de personnes. Et mon objectif, c'est pas juste de connaître le hadith, de pouvoir le raconter aux gens, là, wallah. L'objectif, c'est de chercher où ça n'a une place pour moi dedans. Soit en avant, soit en attaque, soit en défense, soit de le but. Où est-ce qu'il y a une place pour moi? Est-ce qu'il y a une place pour moi parmi les jeunes qui ont grandi de l'obéissance d'Allah? Est-ce qu'il y a une place pour moi parmi les gens qui ont donné le chemin d'Allah avec sincérité? Est-ce qu'il y a une place pour moi parmi ceux qui ont reçu des avances de zina ou d'autres péchés et qui ont refusé par crainte d'Allah? Ou celui qui fait la prière de la nuit, qui pense à son Seigneur et qui pleure par amour et par crainte d'Allah? Mon but, c'est de me frayer un chemin parmi ces sept chemins-là. De développer une de ces sept qualités, tout en sachant que la concurrence est rude. C'est pas tout croyant qui seront sous l'ombre du trône d'Allah, non. Une sélection. Et dans cette sélection, extraordinaire, il y a des sahaba, il y a des tabi'in, il y a des tabi'in qui, eux aussi, ils veulent une place. Eux aussi, ils essaient de développer ces qualités. Alors moi, habitant l'île de la Réunion, en France métropolitaine, ou à Maurice, ou à Mayotte, aux îles Comores, en 2014, dans la situation de l'fitna de laquelle nous vivons, avec notre pratique de la religion qui est faible, est-ce que je peux avoir une place? Honnêtement, on n'est pas de les plus cotés. Hein. Mais Allah est tellement clément, tellement rahman, rahim, miséricordieux, qu'il peut nous accorder ça. Il peut nous accorder. Et Allah est conscient, subhanallah. Ça fait partie du ilm d'Allah. Allah connaît dans quelle situation on évolue. Celui qui pratique à notre époque, sa pratique est très difficile. Ça a une valeur pour Allah que celui qui arrive à rester ferme de son dîn, malgré les amans, malgré les périodes de fitna, malgré les péchés qui sont envahissants, les péchés qui sont à portée de main, et que même si vous ne tendez pas votre main, le péché il monte sur vous. Le péché est omniprésent, il est partout. Mais celui qui arrive à se protéger, à rester ferme de le dîn, c'est vraiment quelqu'un qui a fait un mujahada ajib. J'ai déjà cité des exemples plusieurs reprises, je veux dire encore une fois, ça rappelle pour moi-même, pour nous tous. On avait reçu une fois deux personnes de Makkah, pas exactement de Makkah, mais des villages autour de Makkah, tout Mukarrama, qui étaient venus quelques jours à la Réunion. C'était un samedi. Il dit, ben allons se promener un peu en ville. Je me suis dit que c'est une mauvaise idée. C'était un samedi après-midi. Je sais d'où viennent ces gens. C'est des gens qui ne voyagent pas beaucoup en plus. Des gens qui n'ont pas été en Occident et tout et tout. Yani, ils ont vécu dans un domaine protégé. Et là, il veut se faire un petit battre un carré, comme il dit. Il ne sait pas c'est quoi samedi après-midi. Il ne connaît pas c'est quoi la Rémachal Leclerc. Comment c'est chaud. Donc, on a fait un tour. Déjà, personne n'est passé près du cimetière. Et quand on passe, on voit un cimetière des Nasara. J'ai l'impression que c'est la première fois qu'il voyait un cimetière non musulman. Il était choqué, il a pu parler. Il a demandé, oh, Allah nous protège, et tous ces gens-là, qu'est-ce qui est en train de se passer sous la tombe, ces gens qui sont morts sans la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Il n'était pas au bout de ses surprises. Quand il est arrivé en ville, là aussi, il restait silencieux. Il passait en voiture, il est parti rendre visite à quelques frères arabophones. Et puis il m'a dit, cher Ibrahim, celui qui habite dans cet endroit comme vous et qui contrôle son regard, c'est un waliyullah. C'est un ami d'Allah. C'est un sal, il fait partie des salihin, des gens pieux. Alors que quand tu habites à Mecca, ben, il n'y a pas besoin de contrôler ton regard, Yahri. Tu vas regarder quoi? Hein? Les dames, mashallah. S'il y a un petit cheveu qui sort, tout de suite, il y a des rappels à l'ordre, parce que ça, c'est le satar qui n'est pas couvert. Yahri, tu ne fais pas d'erreur, à moins que tu aies pervers, tu vas chercher des bêtises. Mais Yahri, quand tu vis normalement, ton regard, mashallah, que tu regardes par terre, ou tu regardes les nuages, tu regardes devant toi, mashallah, plus ou moins, alhamdulillah, plus ou moins, tu es protégé. Il dit que dans votre contexte à vous, c'est pas un hadith hein, ce qu'il dit, hein, mais c'est un avis qui est totalement appréciable. Dans un contexte comme le vôtre, celui qui contrôle mais vraiment son regard, qui baisse son regard, qui ne regarde jamais ce qui est haram, c'est un homme pieux et qui est donc admirable. Donc Allah connaît quelles sont les difficultés que nous vivons, le contexte dans lequel nous essayons de pratiquer notre dîn, et Allah est capable de nous accorder cette place, inshallah, parce qu'elle n'est pas réservée uniquement aux sahaba là, à n'importe quelle personne qui appartient à la Ummah. Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qu'on doit rechercher. Quand on étudie ce genre de texte, chef, en conclusion, on doit réaliser que quand je fais de bonnes actions, c'est que je veux me dépasser pour avoir ce grade auprès d'Allah. Quand je me lève tahajjud, je veux me dépasser pour avoir cette place-là, comme cet homme-là qui pleure la nuit. Quand je baisse le regard, quand je m'éloigne de tout ce qui est haram, et ainsi de suite, je fais en sorte d'avoir la même attitude que celui qui reçoit des avances pour le haram, pour l'interdit, et qui s'en éloigne. Quand mes amis, moi qui suis jeune, m'invitent vers des choses qui sont pas bien, allons regarder telle chose, allons boîte de nuit, allons s'amuser un peu, ainsi de suite. Ils vont dire non, je ne fais pas ça. Je dois réaliser que quand je refuse, là, c'est que j'essaie d'avoir les qualités de ce jeune qui a grandi de l'obéissance d'Allah, et avec cet espoir, c'est ça, d'avoir cette place le jour de Qiyamah. Du coup, l'éloignement du haram devient un challenge qui nous motive. L'accomplissement des bonnes actions devient une source de motivation également. La patience dans les moments de difficulté devient quelque chose de magnifique. Le fait de donner dans le chemin d'Allah, ce n'est pas comme une catastrophe qu'on a perdu de l'argent, non, ça devient comme quelque chose qui remplit nos cœurs d'espoir, que peut-être qu'avec ça, Allah va me donner cette place où son trône le jour de Qiyam. C'est comme ça qu'on doit étudier ce hadith. J'avais expliqué aux élèves qui sont à la madrasa samedi, les collégiens lycéens, avec qui on a recommencé un peu la sirah, parce qu'ils n'avaient pas vraiment eu beaucoup de bases. J'ai posé la question à ces élèves qui sont au lycée, quelle est la différence entre la sirah et l'histoire? L'histoire, quand vous étudiez le Moyen-Âge, Charlemagne, ou Louis XVI, ou la Renaissance, ainsi de suite, est-ce que le but c'est de mettre en pratique? Non, c'est ça, mettre en pratique là. Et le but c'est pas que quand tu as étudié ton livre d'histoire, ça prend un perruque, ça met ta farine dessus, ça fait comme Louis XVI, Louis XIV, non, n'importe quoi. Il n'y a rien à mettre en pratique. C'est juste une connaissance, un enrichissement culturel. La sirah, ce n'est pas de l'histoire. Quand on étudie la sirah, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le but, ce n'est pas juste de connaître des dates, Badr l'an 2, Uhud l'an 3, 313, l'autre 900, ainsi de suite. Pas ça le but, de connaître des dates, des chiffres et des noms. Non. Le but, c'est d'analyser comment les sahaba ridwanullahi alayhi wa jama'in ont vécu leur islam. Et comment est-ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a vécu chaque moment de sa vie. Et comment a-t-il réagi dans les moments de difficulté intense? Et comment a-t-il réagi dans les moments de bonheur intense? Pour que lorsque nous vivons un moment de difficulté, nous adoptons le même comportement prophétique. Lorsque nous vivons un moment de bonheur, nous adoptons ce comportement prophétique. Et on avait laissé les élèves donner des exemples à travers ce qu'ils avaient déjà appris un peu en sirat, les moments les plus durs que le prophète alayhi salat wa sallam a vécu. Et on avait retenu, lorsqu'il était parti, inviter les Banu Thaqif vers l'islam, dans le village de Taïf. Petite parenthèse. Les gens qui vont venir faire les visas de Hajj cette année, vont venir bientôt. Le boss sort de Taïf. J'espère qu'il a un meilleur comportement que les Banu Thaqif, Inch'Allah. Autrement, on est tous cuits. D'accord? Allah est donné à guider à leurs descendants, Alhamdulillah. Donc, on a vu que dans les moments où le Prophète a été agressé, lorsqu'ils l'ont frappé, parce qu'ils l'ont frappé, d'accord? Lorsque le prophète a saigné et qu'il était dans une situation de mazloum, d'opprimé. Lorsqu'il était dans une situation d'opprimé et qu'il avait la possibilité de se venger, de détruire ce peuple oppresseur, il ne l'a pas fait parce que son cœur était rempli d'amour pour les créatures d'Allah. Et il avait espoir que leurs enfants vont accepter le dîn. Et la grande leçon à retenir, qui que ce soit te fait du mal, quel que soit le mal qui t'a été fait, quelle que soit l'intensité, quel que soit le degré d'injustice, le musulman ne se venge pas. Le musulman ne souhaite pas du mal pour son prochain, même son pire ennemi. toujours avoir de la pitié de notre cœur pour notre prochain. Comme le prophète alayhi salatu wassalam avait agi dans ces moments d'intenses difficultés. Et quand on analyse un moment de bonheur, c'est le Fath Makkah. Quel événement magnifique pour le prophète sallam lui-même, pour les sahaba et pour le monde musulman, que la conquête, la reconquête, le retour de Mecca dans les mains des croyants, des musulmans. Le prophète sallam, comment est-ce qu'il était attristé quand il a dû quitter Mecca? Comment les sahaba, ils étaient perturbés par le simple fait de quitter Mecca? C'était la Ummul Qura, c'était Mecca a une place incroyable dans le cœur des Ahlé Mecca, ça c'est ajib ça. Et donc retrouver Mecca, c'était le moment le plus extraordinaire. C'est la victoire du prophète sur ses ennemis de plus de 20 ans. Mais comment est-ce qu'il est entré dans la ville sainte avec tawadu, humilité, la tête baissée, tellement baissée qu'il était presque courbé. C'est pas le fier conquérant qui rentre, qui montre que c'est lui qui a gagné, que ma stratégie était meilleure, que j'avais plus de force que vous. Non, première réaction, humilité. Être conscient que tout vient d'Allah. Les difficultés étaient venues d'Allah, à Taïf. C'est-à-dire, à Taïf, il ne rêvait même pas des Ahlul Makka qu'ils deviennent musulmans là. Ils essayaient de travailler les voisins qui avaient beaucoup moins de grades que les Ahlul Taïf. Maintenant, Allah ne lui a pas donné Ahlul Taïf dans le din. Il lui a donné Makka et Ahlul Makka en entier. Et récupération de Makka. Quelle joie! Mais il sait que autant sur son taïf, ça venait d'Allah, il se soumet à Allah, il accepte la décision d'Allah, autant ce moment de joie intense, ça vient d'Allah, il accepte ce qu'Allah lui a accordé et il se montre reconnaissant, il fait preuve d'humilité. Ça, c'est la réaction d'un croyant. Il fait deux raka'at à la Kaaba sans remettre Allah Azza wa Jal. Il pardonne aux gens qui lui ont fait du tort. Idhabu famtum tulaqa. Vous avez donné cet exemple aux jeunes que vous, un jour, vous allez passer votre bac. Quand vous allez réussir, avant de passer le bac, on fait doua, on demande le papa, la maman, le frère, la soeur, les tontons, les grands-pères, même téléphone de grand-mère qui est au Comor, fais doua pour mon petit-fils, il va passer le bac. Tout le monde fait doua, tahajjud, qiyamul layl. Et quand il a eu le bac, c'est la fiesta. On fait pète de champagne, boîte de nuit, on se déchaîne. Est-ce que c'est une réaction de croyant? La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand une personne obtient un bienfait, là aussi, il faut savoir comment réagir dans le moment de bonheur. L'islam, ce n'est pas une religion de tristesse, qu'uniquement de le malheur, tu te dis que voilà, le musulman, dans la tristesse, il agit comme... Non ! Dans le bonheur, parce qu'on va connaître des moments de joie dans notre vie. Inch'Allah, un jeune se marie un jour. Un jeune se marie, il va être content, il va être heureux. Il ne faut pas que cette joie-là lui fait oublier la pensée d'Allah. Qu'il est tellement heureux avec sa femme qu'il est comme quelqu'un qui a pris, je sais pas combien, caché l'antenne d'extasie et mélangé avec tout ça, mais qu'il est pas, il paraît qu'il existe tout ça. Il est tellement heureux qu'il oublie la salah. Ce jeune qui était multazim, il vient plus à la masjid parce qu'il est ivre d'amour. Il vit sur un petit nuage. Dans les moments de bonheur intense aussi, on apprend à se contrôler, à connaître quelle est la réaction du musulman. Quand le prophète, lorsqu'il a conquis Mecca, il a fait preuve d'humilité, de tawadu. Il s'est prosterné devant Allah Azza wa Jal. Il a tout mis, il s'en est remis à Allah Azza wa Jal avec conviction que tout vient de son Seigneur. Bref, une autre conception du din, une approche intelligente de la religion, une approche des textes constructive. Quand j'étudie la sira, je sais qu'est-ce que je dois développer. Je ne lis pas comme un livre d'histoire. Quand je lis ces hadiths, je sais qu'est-ce que je dois faire émerger de ce hadith pour prendre, pour mettre en pratique, parce que ce hadith-là, c'est mon futur, ça. C'est des choses que je vais voir. Qu'Allah nous tawfiq, mes chers frères. On a complété ce soir une étape de l'au-delà qui est la résurrection, et avec une parenthèse qui était les hommes les plus heureux le jour de Qiyama. Ce qui nous reste à voir la prochaine fois, je pense qu'on va accélérer. Parce que le but, c'est de passer en revue Riyadus Salihin et non pas de faire un trimestre dans un hadith. On va voir Nashrud Dawawin lorsque les livrets de comptes seront donnés. On va voir le Hissab en lui-même. On va voir le Kawthar, le bassin que le prophète alayhi salatu wassalam a vu de la part d'Allah. On va voir le Sirat, l'étape avant, après le Sirat et l'accès au paradis, Inch'Allah. Normalement, on voulait voir tout ça aujourd'hui, mais bon, alhamdulillah, on a pu voir d'autres choses également. Et enfin, il nous restera wa an tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Que tout vient d'Allah, que le taqdir, on va voir quelques notions de base concernant le destin, et avec ça, je pense qu'on pourra compléter le fameux hadith Jibril, qu'Allah t'a donné le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Tawfiq illa billah, subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifoun, salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen, zakum khair.